Chapitre 6 Vicissitudes. C'est seulement quand on se saisit de lui que la réalité de ce qu'il attendait le frappa. Il aurait sans doute pu repousser le vieux gardien sans difficulté, mais il avait affaire là à des hommes encore jeunes, impassibles, musclés, et qui connaissaient leur travail.
« Lâchez-moi !» cria Yémin d'une voix furieuse. « Mon père va venir me chercher, lâchez-moi !»
C'était stupide, comme il s'en rendit compte plus tard, comme s'ils allaient obéir simplement parce qu'il leur avait donné un ordre. C'était un fait parmi tant d'autres qu'ils devaient apprendre. Les mots qui sortaient de la bouche d'un esclave n'ont pas de sens. Ces cris rageurs n'étaient pas plus intelligibles pour ces hommes que les braiements d'un âne. Ils lui tordirent les bras si bien qu'il dut aller, contraint et forcé, et d'un pas chancelant, dans la direction qu'il souhaitait, et il n'était pas encore tout à fait revenu de sa surprise de s'être senti ainsi empoigné, qu'il se retrouvait déjà fermement appuyé au bloc de tatouage.
« Du calme !» lui ordonna un des hommes d'un ton bourru, tout en approchant d'une saccade les menottes de Yémin d'un crampon.
Le jeune garçon tira en sens inverse, dans l'espoir de s'échapper avant que l'homme eût le temps de l'attacher, mais il ne parvint qu'à s'arracher la peau des poignets. La cheville était déjà en place. En un clin d'œil, ils avaient réussi à l'obliger à se tenir plié en deux, les poignets enchaînés près de ses chevilles. Un des hommes le poussa légèrement, et Yémin passa comme de son propre gré la tête dans un collier de cuir fixé verticalement sur le bloc. D'un geste vif, l'autre homme le resserra sur son cou à un cheveu de la strangulation. Tant qu'il ne se débattrait pas, il arriverait tout juste à respirer. Ses halètements exigeaient déjà une certaine attention, et il aurait eu le plus grand mal à inspirer profondément. L'esprit embrumé, il songea que les deux hommes avaient opéré comme des ouvriers agricoles se préparant à castrer un veau, avec la même efficacité, la même insensibilité et le même emploi précis de la force. Il ne devait même pas transpirer.
« Sceau du gouverneur !»
dit l'un d'eux au tatoueur, qui hocha la tête en déplaçant du bout de la langue une chique de sardine dans sa bouche.
« Ce n'est pas moi qui ai créé ma chair. Je ne la percerai pas pour la parer de bijoux, ni ne marquerai ma peau, ni n'incrusterai d'ornements sur mon visage, car je suis une créature de ça, faite tel qu'il l'a voulu. Je n'ai pas le droit d'écrire sur ma chair. » Il avait tout juste assez de souffle pour citer les saintes écritures, mais il prononça les mots sacrés en espérant que le tatoueur l'entendrait.
L'homme cracha de côté. Sa salive était rougie de sang. Il avait acquis une telle dépendance à la drogue qu'il continuait à en prendre alors que sa bouche devait être pleine d'aft.
« T'affole pas, c'est pas sur ta chair que j'écris, » répondit-il avec un humour douteux. « Puisqu'elle appartient au gouverneur, son sceau, je pourrais le dessiner les yeux fermés. Si tu bouges pas, ça ira plus vite et ça fera moins mal. »«
Mon père vient payer mon amende. »
Il prononça ces mots essentiels en respirant laborieusement.
« Ton père, il est en retard. Bouge pas. »
Yémin n'eut pas le temps de se demander si se tenir tranquille pourrait être considéré comme un consentement au blasphème qui allait avoir lieu. Le premier coup d'aiguille manqua sa joue et lui perça la narine. Il rua en poussant un glapissement.
Le tatoueur lui appliqua une taloche sur l'arrière du crâne. « Bouge pas !»
répéta-t-il d'un ton sec. Yémin ferma étroitement les yeux et serra les dents.
« Ah, j'aime pas ça quand il plisse la figure !»
marmonna l'homme, mécontent, avant de se mettre au travail. Une dizaine de coups d'aiguille, un coup de chiffon pour essuyer le sang, puis la piqûre de la teinture verte. De nouveau, une dizaine de coups d'aiguille, un coup de chiffon, la piqûre.
Yémin avait l'impression qu'à chaque inspiration, un peu moins d'air pénétrait dans ses poumons. Il se sentit pris d'étourdissement. Craignait de s'évanouir et s'en voulait d'en avoir honte. En quoi s'évanouir? L'humilierait-il? C'était lui la victime. Et où était son père? Comment se pouvait-il qu'il fût en retard?
Ignorait-il le sort réservé à son fils s'il n'arrivait pas à temps ?
Maintenant, n'y touche pas. Ne te gratte pas, sinon t'auras encore plus mal.
Une voix lointaine lui parlait à travers le rugissement qui avait envahi ses oreilles.
« Celui-là est terminé. Emmenez-le et apportez-moi un autre. »
Des mains le saisirent par les fers et le col, et on l'entraîna sans ménagement vers une destination inconnue. Il avança, en trébuchant, à demi étourdi, savourant de grandes goulées d'air, et se retrouva dans un nouveau box, dans un nouvel abri. « C'était impossible, » se répétait-il. « Cela ne pouvait pas lui arriver, à lui. Son père n'aurait jamais permis qu'on le tatoue puis qu'on le vende. » Ses gardiens le firent entrer dans un enclos réservé aux nouveaux esclaves. Ses 5 codétenus portaient tous un tatouage vert encore suintant. Les hommes attachèrent ses chaînes à une cheville plantée dans le sol, puis quittèrent le box. Dès qu'ils lui lâchèrent les bras, son premier réflexe fut de se palper délicatement le visage. Et il sentit sous ses doigts l'enflure et la suppuration de sa chair violentée. Un liquide rosé coulait lentement le long de sa joue et dégouttait de son menton. Il n'avait rien pour arrêter l'écoulement. Il regarda les autres esclaves de l'enclos et prit conscience qu'il n'avait plus ouvert la bouche depuis qu'il avait parlé avec le tatoueur. « Que va-t-il se passer maintenant ? » demanda-t-il, l'esprit encore embrumé. Un jeune homme maigre se cura le nez d'un doigt sale.
« On nous vend, » répondit-il d'un ton caustique, « et on reste esclave toute notre vie. À moins de tuer quelqu'un et de s'enfuir, »
ajouta-t-il d'un air à la fois sombre et crâne. Mais Yéma comprit que ce n'était que des mots. Le jeune homme n'avait plus que pour exprimer sa résistance. Ses compagnons, eux, paraissaient ne même plus disposer de cet exutoire. Debout, assis ou adossés à la paroi du box, ils attendaient avec résignation la suite des événements. Yéma reconnut cet état d'hébétitude. Il était fréquent chez ceux qui avaient subi une blessure grave. Laissés à eux seuls, ils restaient sans bouger, le regard fixe pris parfois d'un frisson.
« Je n'arrive pas à y croire, » dit Yéma, étonné lui-même de ses propres paroles. « Pourquoi Torg n'a-t-il pas prévenu mon père ?»
Et puis, il se demanda pourquoi il n'avait pas entretenu cet espoir.
Qu'est-ce qui lui avait donc pris ? Pourquoi tant de stupidité ? Il avait remis son sort entre les mains d'un imbécile brutal et vicieux. Pourquoi n'avait-il pas fait avertir son père ? Pourquoi n'en avait-il pas chargé le gardien dès le premier jour ? Et en y réfléchissant, pourquoi avait-il fui le navire ? S'y trouvait-il vraiment si mal ? À l'époque, au moins, il savait que dans un délai de 2 ans, il serait délivré de son père. Maintenant, il n'y avait plus de terme à sa servitude. Et la Vivacia ne serait plus là pour le soutenir. À cette idée, un terrible sentiment de solitude l'envahit. Il l'avait trahi. Et il s'était mis lui-même dans les fers. Telle était la réalité. Il était désormais et pour toujours esclave. Il se roula en boule dans la paille sale, les bras autour de ses genoux remontés contre sa poitrine. Au loin, il crut entendre le rugissement du vent. La Vivacia se balançait tristement sur les eaux paisibles du port. Il faisait un temps merveilleux. Le soleil se reflétait sur la blanche et légendaire Jamélia. Le vent soufflait du sud, adoucissant la température de ce jour d'hiver et atténuant la puanteur des autres transports d'esclaves mouillés auprès d'elle. Le printemps n'était plus loin. Plus au sud, là où Ephron la conduisait habituellement, les arbres fruitiers devaient se cacher sous des cascades de fleurs blanches ou roses. Plus au sud, il faisait beau et chaud. Mais elle allait remonter vers le nord, jusqu'en Chalcède. Les marteaux et les scies s'étaient enfin tus en elle. Toutes les modifications exigées par son nouveau statut de transport d'esclaves étaient achevées. La journée se passerait à embarquer les derniers approvisionnements. Le lendemain, sa cargaison humaine serait transbordée dans ses cales et elle quitterait Jamélia, seule.
Yémin était parti. Dès qu'elle lèverait l'ancre, un ou plusieurs des serpents assoupis dans la boue du port dérouleraient leurs anneaux pour la suivre, et ils seraient désormais ses compagnons. La nuit précédente, alors que rien ne bougeait autour d'elle, un petit était monté à la surface pour rôder parmi les esclavagistes mouillés dans la baie. Arrivé près d'elle, il avait haussé la tête hors de l'eau et lui avait jeté un regard prudent, et Vivacia avait senti sa gorge se serrer de terreur. Elle n'avait même pas trouvé la force d'appeler les hommes de Kar. Si Yémin avait été à bord, lui au moins aurait perçu son effroi et serait accouru. Elle s'efforça de le chasser de ses pensées. Elle allait devoir s'occuper seule d'elle-même. L'accablement de leur séparation lui rongeait le cœur, mais elle le repoussa. La journée était superbe. Elle écouta le clapotis des vagues contre sa coque tandis qu'elle se balançait à l'ancre. Quelle paix!
Navire! Vivacia!
Elle tourna la tête lentement et regarda par-dessus son épaule. C'était Gantry, sur le gaillard d'avant, penché sur le bastingage pour lui parler.
« Vivacia, tu peux arrêter, s'il te plaît? Ça flanque la trouille à tout l'équipage. Il nous manque déjà deux matelots aujourd'hui, qui ne sont pas rentrés de permission. Et je crois que c'est parce que tu les as effrayés. »
Effrayés? Qu'y avait-il de si effrayant à se retrouver seul et à sentir la présence de serpents que nul ne voyait jamais?
« Vivacia, je vais t'envoyer Findo pour qu'il te joue quelques airs de violon. Et puis... « j'ai moi-même une permission de quelques heures aujourd'hui, et je te promets de la passer à chercher Yémin. Je te le jure. »
Croyait-il que cela lui rendrait le bonheur? S'il trouvait Yémin, le ramenait de force à bord et l'obligeait à la servir, s'imaginait-il que, satisfaite, elle se montrerait plus docile? Ouais, ce serait bien de Kyle. C'était dans ce but qu'il avait embarqué Yémin. L'idée que certaines choses ne pouvaient être accomplies que librement lui était complètement étrangère.
« Vivacia !» reprit Gantry avec une note de désespoir dans la voix. « Je t'en prie, je t'en supplie, est-ce que tu pourrais cesser de te balancer? La mer est lisse comme un miroir et aucun autre bateau ne bouge dans le port. Je t'en prie !»
Elle éprouva de la peine pour lui. C'était un bon second et un marin très compétent. Il n'était pas responsable de la situation et il n'avait pas à en souffrir. Mais elle non plus. Elle rassembla ses forces. C'était un bon matelot. Elle lui devait une petite explication.
« Je me perds moi-même, »
fit-elle, puis elle perçut la bizarrerie de son expression. Elle se reprit.
« C'est moins dur à supporter quand je sais que quelqu'un va revenir. Mais... dans le cas présent, j'ai du mal à m'accrocher à mon identité. Je me mets à réfléchir. Non, pas à réfléchir. C'est plutôt comme si je rêvais, bien que nous autres, les Vivenefs, ne dormions pas. Mais on dirait un rêve, et alors je suis quelqu'un d'autre, une autre créature. Et les serpents me touchent, et c'est encore pire. »
L'homme paraissait inquiet.
« Des serpents ?»
répéta-t-il d'un ton dubitatif.
« Gantry »
dit-elle d'une voix à peine audible.
« Gantry, il y a des serpents ici même, dans le port, cachés dans la vase du fond. »
Il poussa un profond soupir.
« Tu me l'as déjà dit, mais, Vivacia, personne d'autre n'en a vu le moindre signe. « Tu es sûr de ne pas te tromper ?»
Il se tut, espérant une réponse. Elle détourna le regard.
« Si Yémin était ici, il les sentirait. Il saurait que ce n'est pas un tour de mon imagination. »«
Oui, » fit Gantry à contre-cœur, « mais il n'est pas ici. Je sais que ça te rend malheureuse et peut-être aussi inquiète pour des riens. »
Il s'interrompit. Puis reprit d'un ton cajoleur comme s'il s'adressait à un enfant effrayé.
« Peut-être qu'il y a des serpents ici, mais Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils ne nous font pas de mal. Faisons comme s'ils n'existaient pas.
D'accord.
Elle tourna la tête pour le dévisager, mais elle refusa de croiser son regard.
Que croyait-il donc? Que les serpents étaient le fruit de son invention? Que le chagrin du départ de Yéma l'avait rendue folle?
Je ne suis pas démente, Gantry,
dit-elle d'une voix calme.
C'est dur pour moi de me retrouver seule, c'est vrai, mais je ne perds pas la raison. Peut-être même suis-je plus lucide qu'avant. Je perçois ce qui m'entoure à ma façon, et non plus à la façon Vestrite.
Ses efforts pour expliquer ce qu'elle ressentait ne firent qu'embrouiller Gantry un peu plus.
« Ah oui, bien sûr, fit-il en contemplant le port.
« Gantry, tu es un homme honnête et je t'aime bien. »
Elle faillit se taire, mais elle poursuivit pourtant.
« Tu devrais t'enrôler sur un autre navire. »
Elle sentit l'odeur de peur qui se dégagea soudain de lui quand il répondit
« Allons, quel autre navire t'arrive à la cheville ?» demanda-t-il vivement. « Après avoir navigué à ton bord, pourquoi est-ce que je voudrais travailler sur un autre ?»
Elle perçut la cordialité forcée qui se cachait sous ses propos.
« Parce que tu n'as pas envie de mourir, peut-être »
fit-elle d'une voix très basse.
« J'ai un très mauvais pressentiment sur cette traversée. Un très mauvais pressentiment. Surtout si je dois l'effectuer seul. »
« Ne parle pas comme ça !»
s'exclama-t-il avec violence, comme s'il s'adressait à un matelot indiscipliné. Puis, plus calmement, il reprit.
« Tu ne seras pas seul. Je serai là, moi. Je vais aller dire à Findo de te jouer du violon, d'accord ?»
Elle haussa les épaules. Au moins, elle avait essayé. Elle braqua ses yeux sur la flèche lointaine du palais du gouverneur. Au bout d'un moment, Gantry s'éloigna. Elle avait craint que le capitaine Ténira ne la reconnaisse. Elle avait dansé avec son fils au rassemblement d'hiver 3 ans plus tôt. Mais si le marchand de Terrilville perçut la moindre ressemblance entre Athel, le matelot, et Althea, la fille d'Ephron Vestrit, il n'en manifesta rien. Il la toisa d'un œil critique, puis secoua la tête.
« Tu as l'air d'un bon marin, garçon. Mais je te l'ai dit, je n'ai besoin de personne. » Mon équipage est plein. »
Au ton qu'il avait employé, la question était réglée. Althea garda les yeux baissés. Elle avait repéré l'Ophélie 2 jours plus tôt dans le port, et la vue de la coque argentée et de la figure de proue souriante de la vieille Vivnef avait suscité en elle une émotion d'une force extraordinaire. Quelques questions dans les tavernes du front de mer lui avaient permis d'obtenir le renseignement désiré. La Vivnef rentrait dans quelques jours à Terrilville. À l'instant où elle avait entendu cette réponse, Althea avait décidé que, d'une façon ou d'une autre, elle se trouverait à son bord. Elle s'était alors mise à traîner sur les quais, l'œil aux aguets, attendant l'occasion de parler au capitaine seul à seul. Son plan était simple. Elle essaierait tout d'abord de se faire embaucher comme mousse. Si cela ne marchait pas, elle révélerait son identité au commandant et le supplierait de l'embarquer comme passagère. C'est pourtant en tremblant qu'elle avait suivi Ténira jusqu'à sa taverne du port et patienté, debout dans un coin de la salle, jusqu'à la fin de son dîner. Quand enfin il avait reposé sa fourchette et s'était laissé aller contre le dossier de sa chaise, elle était venue se planter devant lui. À présent, elle devait faire appel à tout son courage.
« Capitaine ? Je vous demande pardon, mais je suis prêt à travailler pour rien, juste pour que vous me rameniez à Terrilville. »
L'homme se tourna vers elle et croisa les bras.
« Pourquoi ? »
demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Althea contempla le carrelage de la taverne entre ses pieds et se mordit la lèvre. Puis elle leva les yeux vers le commandant de l'Ophélie.
« J'ai mon salaire du moissonneur. Enfin, ce qu'il en reste. » Je voudrais rentrer chez moi pour le donner à ma mère. »
Althea avala sa salive, mal à l'aise.
avant de l'avoir tout dépensé. J'ai promis à ma mère de rapporter de l'argent, capitaine, parce que papa est dans une mauvaise passe. J'ai beau faire, plus j'attends qu'un bateau me ramène à Terrilleville, plus je dépense. »
Elle baissa de nouveau les yeux. « Même si vous ne me payez rien, en partant tout de suite, j'aurai sans doute plus d'argent sur moi à l'arrivée qu'en restant ici à essayer de trouver une place qui me rapporte. »
« Je vois. »
Le capitaine Ténira regarda l'assiette sur la table devant lui et l'écarta d'un geste désinvolte. Il se nettoya une dent du bout de la langue.
« Ma foi, c'est admirable. Mais je serai tout de même obligé de te nourrir, j'imagine.
Et le travail à bord d'une vive nef n'est pas exactement le même que sur un autre bateau.
Une vive nef, ça réagit d'une façon qui n'a rien à voir avec le vent ni avec le temps. Et Ophélie est une dame qui peut avoir son caractère. »
Althea se mordit la lèvre pour ne pas sourire. L'Ophélia était une des plus anciennes vives nefs qui existaient, et elle appartenait même à la première génération. C'était un vieux rafio ventru qui pouvait apparaître aussi bien paillard et ordurier qu'aristocratique et imposant selon son humeur. Une dame qui peut avoir son caractère était une des descriptions les plus aimables qu'Althea eût entendues sur la vive nef.
Les matelots ne doivent pas seulement se montrer vifs et intelligents,
pérorait le capitaine Ténira.
Ils doivent aussi avoir un tempérament égal. Il n'est pas question qu'ils aient peur d'elle, ni qu'ils nourrissent des superstitions à son sujet. Cependant, il ne s'agit pas non plus qu'ils la laissent leur marcher sur les pieds. Tu es déjà monté à bord d'une vive nef, garçon ?
Quelquefois, répondit Althea. Avant de naviguer, j'allais sur la digue nord, à Terrilleville, et je parlais avec elles de temps en temps. Je les aime bien, capitaine. Elles ne me font pas peur.
Le commandant s'éclaircit la voix, et c'est d'une voix changée qu'il déclara :
Un marchand est très différent d'un navire abattoir. Nous voyageons beaucoup plus vite et nous sommes beaucoup plus propres. Quand le second te donne un ordre, tu obéis aussitôt. T'en crois-tu capable ?
Oui, capitaine, j'en suis capable. Et je me lave tous les jours, et je sais tenir mon coin.
Althea hochait la tête comme un pantin.
Très bien. L'homme réfléchit. Je n'ai toujours pas besoin de toi, tu sais, et il y a beaucoup de matelots qui donneraient n'importe quoi pour servir à bord d'une vive nef. Tu prends une place pour laquelle je n'aurai aucun mal à trouver un marin plus vieux et plus expérimenté.
Je sais, capitaine, et je vous remercie.
Tu peux, oui. Je suis dur comme maître à bord, a-t-elle. Tu risques de regretter ta décision avant notre arrivée à Terrilleville.
Pardon, capitaine, mais c'est ce que j'ai entendu dire sur vous. Que vous êtes dur, mais juste.
Elle leva les yeux vers le commandant.
« J'ai pas peur de travailler pour un homme juste. »
C'était assez de miel pour adoucir le capitaine qui faillit sourire.
« Dans ce cas, va te présenter au second. Il s'appelle Grag Ténira. Dis-lui que je t'ai enrôlé et que tu dois dérouiller la chaîne d'ancre. »«
Oui, capitaine, »
répondit Althea avec une petite grimace. Dérouiller la chaîne d'ancre était une tâche sans fin. Mais elle songea qu'exécuter cette besogne sur une vive nef valait mieux que tout ce qu'elle avait pu faire à bord du moissonneur.
« Merci, capitaine. »«
Eh bien, vas-y !»
fit Ténira d'un ton cordial. Il se pencha pour prendre sa chope et l'agiter en l'air afin d'attirer un serveur. Dès qu'elle eut mis le pied sur le trottoir en planche devant la taverne, Althea poussa un grand soupir de soulagement. C'est à peine si elle sentait le vent glacé qui soufflait dans la rue. Ténira ne l'avait pas reconnue, et il était peu probable que cela n'arrive jamais. En tant que mousse, elle avait peu de chances de croiser fréquemment le capitaine. En outre, maintenant qu'il l'avait vue sous l'identité d'Athel, il continuerait sans doute à l'apercevoir ainsi. Elle ne doutait pas de parvenir tout aussi facilement à jeter de la poudre aux yeux de Grag Ténira. Athel, le mousse, n'évoquait en rien Althea, la partenaire de danse. Son cœur se gonfla soudain de joie. Elle était arrivée à ses fins. Elle avait trouvé le moyen de retourner à Terrilleville. Et si ce qu'on disait du capitaine Ténira était exact, elle gagnerait quelques pièces au cours du voyage. C'était un homme juste, et s'il la voyait travailler dur, il l'en récompenserait. Il ne lui restait plus qu'à récupérer son sac, embarquer sur le navire et trouver un coin où accrocher un hamac. Le lendemain, elle serait sur le chemin du retour. Et de nouveau à bord d'une vive nef. Sur ce sujet, ses sentiments étaient plus mitigés. L'Ophélie n'était pas la Vivacia, et elle n'aurait aucun lien avec elle. D'un autre côté, Ophélie n'était pas non plus un simple bout de bois mort soumis aux seules forces du vent et des vagues, et Althea aurait plaisir à remettre le pied sur un navire qui réagissait à son environnement. En outre, elle serait soulagée de quitter ce petit port crasseux. Elle dirigea ses pas vers l'auberge fatiguée où elle logeait. Elle allait embarquer sur l'Ophélie le soir même et commencer son voyage le lendemain. Elle n'avait donc pas le temps de chercher Brashen pour lui dire au revoir. Elle ignorait où il se trouvait, et d'ailleurs, qui sait? Peut-être avait-il déjà repris la mer? Et puis, quel intérêt? Rien ne la rattachait vraiment à lui, rien du tout. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait pensé à lui. Elle n'avait en tout cas rien à lui dire, et le revoir ne ferait que susciter des échanges gênants sur des sujets délicats. Le bureau de l'agent maritime était exigu et l'atmosphère étouffante. Le feu qui grondait dans la cheminée était excessif pour une si petite pièce qui paraissait enfumée par contraste avec la rue où soufflait un vent frais. Brashen tirailla son col, puis reposa ses mains sur ses genoux et s'efforça de les y maintenir.
J'embauche pour le veille du printemps. C'est vous dire la confiance que le capitaine place en moi, et je la prends très au sérieux. Si je lui envoie des hommes négligents ou des ivrognes, cela peut coûter au navire du temps, de l'argent et des vies. Je fais donc très attention à qui j'enrôle.
Le petit homme au crâne dégarni s'interrompit pour tirer sur sa pipe. Il paraissait attendre une réponse, et Brashen se creusa la cervelle. « C'est une lourde responsabilité, » fit-il enfin. L'homme exhala une bouffée de fumée jaunâtre. Son âcreté piqua les yeux et la gorge de Brashen, qui s'efforça de n'en rien laisser voir. Il voulait la place de second que le placard en devanture annonçait vacante. Le veille du printemps était un petit marchand à faible tirant d'eau qui cabotait entre Chandelle et Terrilleville, et dont les cargaisons qu'il embarquait à chaque port déterminait la destination suivante. Telle était du moins la façon dont l'agent avait exposé la chose. Pour Brashen, cela revenait à dire que le navire trafiquait avec les pirates, achetant et revendant du fret volé à d'autres bateaux, et il n'était pas sûr de vouloir se retrouver impliqué dans ce genre d'affaires. De fait, il n'avait aucune envie de travailler dans quelque branche que ce fût. Mais il était à court d'argent et n'avait presque plus de sindine. Donc il devait trouver une place, et celle qu'on lui proposait ce jour-là en valait bien une autre. L'homme avait repris son discours et Brashen fit semblant de ne pas avoir manqué une seule de ses paroles.
« Et c'est ainsi que nous l'avons perdu. C'est dommage parce qu'il travaillait pour nous depuis des années. Mais comme vous ne l'ignorez sans doute pas, » il tira de nouveau une longue bouffée de sa pipe et la souffla par le nez. « Le temps et la marée n'attendent pas, non plus que les cargaisons périssables. » Le veille du printemps doit reprendre la mer, et il nous faut un nouveau second. Or, vous paraissez bien connaître les eaux dont nous avons parlé. Cependant, nous risquons de ne pas pouvoir vous payer ce que vous pensez valoir.
Combien ? Demanda Brashen, avant de sourire dans l'espoir d'adoucir la brusquerie de sa question. La migraine l'avait repris, et si l'homme lui soufflait encore une fois sa fumée au visage, il avait l'impression qu'il allait vomir.
Ma foi...
Le ton de Brashen avait manifestement pris l'agent un peu à rebrousse-poil.
« Ça dépend, évidemment. Vous possédez une étiquette du moissonneur, mais rien d'autre qui prouve l'autre expérience que vous prétendez avoir. Il faut que j'y réfléchisse. »
Traduction. Il espérait que quelqu'un d'autre postulerait avec davantage d'étiquettes à présenter.
« Je vois.
Qu'en saurez-vous si vous avez besoin de moi ?»
Encore une question mal formulée. Brashen s'en rendit compte, mais trop tard. Il était apparemment incapable de surveiller ses paroles. Il sourit de nouveau en souhaitant que son expression ne trahît pas trop son accablement.
« Tôt demain matin, peut-être. »
Quand l'homme tira sur sa pipe, Brashen se pencha en faisant semblant de rajuster le bas de son pantalon et il resta ainsi jusqu'à ce que l'agent eût soufflé sa bouffée. Alors, il se redressa. Néanmoins, un nuage jaunâtre l'attendait et il toussa, puis s'éclaircit la gorge.
« Dans ce cas, je reviendrai demain matin, d'accord ?»
Brashen sentait l'angoisse commencer à lui nouer l'estomac. Il allait devoir à nouveau affronter une journée sans rien à manger, une nouvelle nuit à la belle étoile. À ce régime, chaque jour qui passait voyait diminuer ses chances de trouver une place convenable. On n'embauchait pas comme second un homme affamé, crasseux et mal rasé.
« C'est ça !»
répondit l'agent d'un air absent, occupé à trier des documents sur son bureau, Brashen déjà chassé de ses pensées.
« Et venez prêt à embarquer !» Parce que si nous avons besoin de vous, ce sera sans délai. Bonne journée.
Brashen se leva lentement.
C'est inacceptable. Vous refusez de me dire si vous avez besoin de moi, ni ce que serait ma paix, mais je dois me tenir prêt à répondre si vous claquez des doigts. Je ne marche pas.
Tu es fou, lui cria une petite partie irrationnelle de son esprit. Tais-toi, tais-toi, tais-toi.
Mais il était trop tard. Et il savait qu'il aurait l'air non seulement stupide, mais grossier s'il essayait de rattraper ses paroles. Il s'efforça de prendre un ton à la fois espiègle et moqueur, en ajoutant
« Bonne journée à vous, monsieur. Je regrette que nous n'ayons pas pu faire affaire. »
L'agent maritime parut en même temps vexé et inquiet.
« Attendez !»
s'exclama-t-il presque avec colère.
« Attendez !»
Brashen s'arrêta et se retourna, les sourcils levés.
« Pas de précipitation !»
L'indécision se lisait dans les yeux de l'homme.
« Je vais vous dire ce que nous pouvons faire. Je vais parler au second du moissonneur dans la journée. S'il m'assure que vous êtes franc du collier, nous vous verserons le salaire que vous touchiez sur le navire abattoir. C'est équitable. »«
Non, pas du tout. »
Ayant adopté une attitude intransigeante, Brashen ne pouvait plus reculer. En outre, il ne tenait pas à ce que l'agent s'entretienne avec un homme du moissonneur.
« Sur ce bateau, j'étais troisième lieutenant. Si je m'enrôle sur le veille du printemps, je serai second. Ni capitaine, ni simple matelot. Second, responsable de tout ce qui va de travers à bord. Le veille du printemps est peut-être plus petit que le moissonneur, mais ma fonction y est plus importante. Il faut mener l'équipage d'un marchand plus durement et plus efficacement que celui d'un abattoir. »
Et je parie que le veille du printemps rapporte bien plus d'argent que le moissonneur, s'il fait bien son travail.
Si j'embarque comme second, je veux le même salaire que mon prédécesseur.
Mais il avait des années d'expérience sur ce navire,
glapit l'agent.
J'ai des années d'expérience comme second à bord de la Vivacia, qui est un bateau sensiblement plus grand. Allons, versez-moi ce que vous payez à l'ancien second. S'il vous faisait gagner de l'argent, je vous garantis que vous en toucherez autant avec moi. »
L'agent s'affala dans son fauteuil.
« Vous avez l'impudence d'un bon second, » concéda-t-il à contre-cœur. « Très bien. Présentez-vous prêt à embarquer au salaire que vous demandez. Mais je vous avertis, si vous ne faites pas votre travail, le capitaine vous débarquera au port le plus proche, si petit soit-il. »
« Je vais faire mieux parce que je suis honnête et travailleur, » répondit Brashen. « Je vais me présenter dès maintenant sur le bateau. S'il doit mettre à la voile après-demain, il me faudra bien tout ce temps pour vérifier que tout est bien arrimé à bord et faire en sorte que l'équipage sache que je suis le nouveau second. En outre, cela donnera l'occasion au capitaine de voir de quel bois je suis fait. S'il n'apprécie pas ma manière d'opérer, il pourra toujours m'ordonner de débarquer. Ça vous convient-il ? »
Cette concession tombait à pic. Elle permettait à l'agent de conserver un peu de sa fierté. L'homme plissa les yeux, réfléchit, puis acquiesça de la tête.
« Ça me convient. Vous savez où est amarré le veille du printemps ?»
Brashen eut un sourire entendu. « Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui postulerait pour une place sur un navire qu'il n'aurait jamais vu ?»«
Oui, je sais où le trouver. Je serai à son bord avec mon sac. » Si jamais vous changez d'avis, mais ça m'étonnerait.
Eh bien, parfait. Bonne journée, donc.
Bonne journée.
Brashen quitta le bureau et referma la porte derrière lui, puis il suivit la rue d'un pas vif et décidé. Il constata avec soulagement que son sac de marin n'avait pas bougé du tas de paille, derrière l'écurie de chevaux de louage dans laquelle il avait dormi la nuit précédente. Si on le lui avait volé, cela n'aurait pas arrangé sa situation. Il l'ouvrit et jeta un rapide coup d'œil au contenu pour s'assurer qu'on ne lui avait rien chapardé. Il n'y conservait rien de valeur, mais il avait le sens de la propriété. Il fouilla ses affaires. Sa réserve de sindine était toujours là, en baisse, mais suffisante. De toute façon, il n'y toucherait pas tant qu'il serait de service. Il n'en prenait jamais en dehors de ses moments de liberté. D'ailleurs, en toute probabilité, il n'en userait pas à bord du Veil du printemps. Après tout, au cours de toutes les années qu'il avait passées sur la Vivacia, il n'avait jamais fait usage de la sindine, même lors de ses bordées à terre. Il éprouva une douleur sourde en repensant à la Vivacia. Il avait perdu gros en se faisant déposséder de sa place de second. Comment la situation aurait-elle évolué si Efron Vestrit n'était pas tombé malade? Il naviguerait encore à bord de la Vivnef et Altea aussi. Il ressentit un pincement au cœur en songeant à la jeune fille. Il ne savait même pas où elle se trouvait dans cette ville crasseuse. Il s'était montré stupide et borné, comme d'habitude, alors qu'il n'avait aucun motif réel de la planter là comme il l'avait fait l'autre soir. Elle avait simplement prétendu qu'ils ne se connaissaient pas vraiment, mais ce n'était que des mots, et il le savait aussi bien qu'elle. En réalité, elle le connaissait si bien qu'elle n'avait pas voulu prolonger sa relation avec lui. Il s'arrêta en pleine rue, posa son sac à terre et prit ce qui lui restait de sindine. Il rompit un petit morceau de la barrette et le fourra dans sa joue. Il ne désirait pas en prendre trop, juste de quoi lui donner l'air gaillard en attendant d'avaler un repas digne de ce nom à bord. Étrange, comme quelques nuits passées, le ventre vide pouvait rendre appétissant même les biscuits de marin et le bœuf salé. L'espace d'un instant, il sentit la brûlure de la sindine, puis il déplaça la chique du bout de la langue et la sensation s'apaisa. La bouche amère, il prit une profonde inspiration et le décor qui l'entourait parut acquérir une plus grande netteté. Il jeta de nouveau son sac sur son épaule et reprit la route des quais. Quel plaisir ce serait de retrouver une place définie dans le monde. Et puis, le Veil du printemps paraissait un navire intéressant. Brashen avait souvent fait l'aller-retour par le passage intérieur sur la Vivacia, mais s'y était rarement arrêté, car le capitaine Vestrit achetait la plupart de son fret au sud de Jamelia, et Brashen avait visité une centaine de petits ports exotiques de ces mers lointaines. Il serait amusant de refaire connaissance avec les îles des pirates. Quelqu'un se souviendrait-il de lui là-bas? Midi était passé, autant que Yémin put s'en rendre compte. C'était du moins ce que lui assurait son estomac. Il se tâta de nouveau la pommette, puis examina le bout de ses doigts. La lymphe qui sourdait de son tatouage était visqueuse. Il se demanda de quoi il avait l'air. Il voyait le sceau vert sur la joue de ses compagnons de réclusion, mais il n'arrivait pas à l'imaginer sur son propre visage. C'étaient des esclaves, et d'une certaine manière, les voir tatoués n'avait rien de choquant. Mais lui-même n'était pas asservi, non, c'était une erreur. Son père aurait dû venir le tirer de cette situation. Tout à coup, avec la soudaineté d'une bulle qui éclate, il se rendit compte de la complète absence de logique de ses réflexions. La veille, ces visages qui l'entouraient étaient aussi intacts que le sien. Comme lui, ces gens découvraient leur nouveau statut. Pourtant, il n'arrivait toujours pas à se considérer comme un esclave. Ce n'était qu'un terrible malentendu. Il percevait des bruits. Le brouhaha assourdi d'une foule, des voix qui s'élevaient pour se faire entendre, mais nul ne venait les voir, à l'exception d'un garde qui faisait sa tournée d'un air léthargique. Il s'éclaircit la gorge. Personne n'y fit attention, mais il prit tout de même la parole. Pourquoi ne voit-on pas d'acheteurs? Aux autres enclos, il en passait sans cesse pour emmener des esclaves. L'adolescent crasseux répondit d'un ton las.
Tu devais être enfermé dans les boxes aux faces de cartes. Là, les vendeurs acceptent à peu près n'importe quel prix. Les esclaves qualifiés sont achetés par des sociétés qui louent leurs services. On les vend à l'encan pour obliger les sociétés à renchérir les unes sur les autres. Les nouveaux esclaves.
Il se tut soudain, puis s'éclaircit la gorge à son tour.
Les nouveaux esclaves sont vendus aux enchères, eux aussi. Ça s'appelle la règle de miséricorde, parce que parfois la famille ou les amis rachètent quelqu'un et lui rendent sa liberté. Avant, je trouvais ça drôle. J'allais aux enchères avec des copains, et on faisait des offres sur les nouveaux esclaves, rien que pour faire monter leur prix et voir leurs frères ou leurs pères commencer à transpirer.
Il toussota brusquement et se retourna vers l'angle de l'enclos.
Je n'aurais jamais cru me retrouver de l'autre côté de la barrière.
Peut-être que tes amis te rachèteront,
fit Yéma à mi-voix.
Et si tu la fermais avant que je te fasse sauter toutes tes dents?
Répliqua le jeune garçon d'un air mauvais. Yéma comprit que personne, ni parents, ni amis, ne viendrait le racheter, pas plus qu'aucun de ses voisins, d'après leur mine. L'un d'eux était une femme d'âge mûr, dont le visage indiquait qu'elle était habituellement souriante, mais ses traits étaient avachis à présent. Assise dans la paille, elle se balançait doucement d'avant en arrière. Il y avait aussi deux jeunes hommes, d'un peu plus de 20 ans, à l'air timide, vêtus comme des fermiers. Ils étaient assis côte à côte, muets, l'œil vide. Peut-être étaient-ils amis, voire frères. L'autre femme de l'enclos était de cet âge indécis où l'on oscille entre la désillusion et la dureté. Elle se tenait repliée sur elle-même, les bras serrés autour des genoux. Ses lèvres formaient une fine ligne sans expression, et elle gardait les yeux plissés. Des taches d'aspect malsain parsemaient le pourtour de sa bouche. La brève journée d'hiver tirait à sa fin quand deux hommes vinrent chercher les esclaves. Yéma ne les avait jamais vus. Ils portaient de courtes matraques et un rouleau de lourdes chaînes auxquelles ils attachèrent les prisonniers à mesure qu'on les délivrait de leurs fers.
« Par ici !»
dit l'un d'eux. L'autre, sans s'embarrasser de paroles, poussa brutalement Yéma de sa matraque pour lui faire accélérer le pas. La répugnance que le jeune garçon éprouvait à se voir vendu à l'encan comme une vache le disputait à la fatigue née de l'incertitude dans laquelle il avait vécu ces derniers jours. Au moins, il lui arrivait maintenant quelque chose de concret, même s'il n'avait pas son mot à dire. Sa portion de chaîne entre les mains, il suivit gauchement ses compagnons d'un pas malaisé, tout en jetant des regards sur ceux qui l'entouraient. Il n'y avait guère à voir. La plupart des enclos devant lesquels il passait étaient vides à présent. Le brouhaha devint plus fort et ils débouchèrent soudain dans une cour. Elle était bordée d'abris à esclaves, et en son milieu se dressait une estrade munie de marches qui n'était pas sans rappeler un échafaud. Une foule de gens l'entourait, examinant les marchandises, riant, buvant, échangeant des plaisanteries et des commentaires, et achetant des êtres humains. Yéma perçut soudain une odeur de bière et, supplice suprême, celle de viande fumée. Ça et là, dans la cour, des étals proposaient aux passants de quoi se restaurer. De l'autre côté de l'estrade, Yéma aperçut une rangée de boutiques de tatouages en plein air qui ne paraissaient pas chômées. C'était un beau jour de marché, plein d'animation. Sans doute, songea Yéma, des gens s'étaient levés tôt en se réjouissant à l'avance de passer la journée en ville à rencontrer des amis, à marchander et à se promener aux enchères pour voir ce qu'on proposait comme esclave aujourd'hui. On les tint un moment groupés au bas des marches pendant que le crieur en finissait avec le lot précédent et quelques acquéreurs sérieux fendirent la foule pour les inspecter de plus près. Certains posèrent des questions aux gardiens en haussant la voix pour se faire entendre sur l'âge, l'état des dents ou l'expérience de leurs prisonniers. Les gardiens répétèrent les questions à leurs esclaves comme si ceux-ci étaient incapables d'entendre ou de comprendre ce que disaient les acheteurs. L'un d'eux s'enquit de l'âge de Yéma.
14 ans,
répondit le jeune garçon. L'homme émit un grognement méprisant.
« Je lui en aurais donné 12. Remontez-lui la manche que je vois son bras. »
Le gardien obéit.
« Ah, il y a un peu de muscle.
Quel genre de travail est-ce que tu connais, petit ? La cuisine, la basse-cour ? »
Yémin s'éclaircit la gorge. Qu'était-il ? Un esclave avec de bonnes qualifications recevait un meilleur traitement. C'était du moins ce qu'on lui avait dit.
Autant profiter des quelques atouts qu'il possédait.
Je suivais une formation de prêtre. J'ai travaillé dans les vergers, je sais fabriquer des vitraux, écrire, lire et calculer. Et j'ai aussi été mousse sur un bateau,
ajouta-t-il à contre-cœur.
Il est trop plein de lui-même,
fit l'acquéreur avec un ricanement ironique. Il se détourna en secouant la tête à l'intention de son collègue.
« Il sera difficile à dresser. Il croit déjà en savoir trop. »
Alors que Yémin cherchait une réponse adéquate, une saccade sur sa chaîne le ramena à la réalité. Ses compagnons commençaient à gravir les marches et il les suivit d'un pas vacillant. Pendant quelques instants, il dut faire attention de ne pas tomber dans les degrés tant la chaîne qui lui entravait les chevilles était courte. Puis, il prit sa place auprès des autres esclaves sur l'estrade que des torches éclairaient.
« De nouveaux esclaves, tout frais, sans mauvaise habitude. Il faudra les dresser vous-même. »
Le crieur avait entamé son boniment, et la foule réagit par de petits rires sans entrain.
« Voilà tout ce que j'ai. Regardez-les bien et décidez lequel mènera les enchères. J'ai deux solides gaillards, faits pour le travail à la ferme. » Une grand-mère gentille comme tout, parfaite pour surveiller vos enfants. J'ai aussi une femme qui a été traitée un peu à la dure, mais qui a encore quelques bonnes années devant elle, et deux garçons, vifs et en bonne santé, assez jeunes pour les dresser à ce que vous voulez. Allons, qui ouvre les enchères, ne faites pas les timides. Gueulez un grand coup, et dites-moi qui vous avez choisi. »
Le crieur eut un geste enjôleur en direction de la mère de visage qui regardait avec intérêt la marchandise présentée sur l'estrade.
« Méverne, la vieille femme, 3 pièces d'argent !»
Yémin repéra la jeune femme éperdue dans la foule. Une fille, peut-être, ou une amie. La vieille esclave à côté de lui se couvrit le visage des mains, comme si elle avait honte ou craignait d'espérer. Yémin crut que son cœur allait se briser. Ce qu'il vit ensuite le fit au contraire bondir dans sa poitrine. La haute stature et la chevelure blonde de son père ressortaient de la foule comme un drapeau, lui faisant signe de rentrer chez lui et de retrouver la sécurité. Il discutait avec un homme derrière lui.
« Père ! »
cria-t-il, et il vit Kyle Havre se tourner vers la plateforme, l'air effaré. Il vit aussi Torg, près de lui, porter les mains à sa bouche comme sous le coup de sa stupeur, simulant parfaitement l'étonnement. Un des gardiens donna un coup de matraque à Yémin dans les côtes.
« Du calme, attends ton tour !»
dit-il d'un ton sec. C'est à peine si Yémin sentit le choc ou entendit les paroles. Il ne voyait que le visage de son père qui le regardait, si petit et si lointain dans la marée humaine. À la lumière indécise du crépuscule, Yémin n'arrivait pas à distinguer clairement son expression. Sans le quitter des yeux, Yémin adressa une prière à Sa, une simple supplique sans forme précise et qui ne fit pas bouger ses lèvres. Il vit son père se tourner vers Torg et s'entretenir véhémentement avec lui. Et il se demanda si, en cette fin de journée, il lui restait quelque argent. Oui, sans doute. Sans quoi il aurait déjà regagné le navire avec ses achats. Yémin essaya d'esquisser un sourire d'espoir, mais n'y parvint pas. Quelles émotions son père ressentait-il en cet instant? Colère, soulagement, humiliation, pitié? Cela n'avait pas d'importance. Il était impossible que son père ne le rachetât pas. Que dirait sa mère autrement? Yémin songea tout à coup qu'elle ne dirait rien si on la laissait dans l'ignorance de ce qui s'était passé, si on lui faisait croire que son fils était simplement enfui à Jamelia. Le fouet du crieur s'abattit sur la table devant lui.
« Adjugé !»
brailla-t-il.
« Pour 10 pièces d'argent, et grand bien vous fasse, ma belle dame. Allons, qui veut ouvrir les enchères pour le suivant? Voyons, nous avons quelques bons esclaves aujourd'hui. Regardez les muscles de ces paysans. Les semailles de printemps ne sont que dans quelques semaines, ami fermier. Mieux vaut être prêt !»«
Père, je vous en prie !»
cria Yémin avant de battre en retraite, plié en deux par un nouveau coup de matraque. Lentement, Kyle Havre leva la main.
« 5 piécettes pour le jeune garçon !»
La foule éclata de rire en entendant cette offre injurieuse. Avec 5 piécettes de cuivre, on achetait un bol de soupe, pas un esclave. Le crieur recula à pas lents, la main sur le cœur.
« 5 piécettes !»
répéta-t-il, feignant la consternation.
« Mon petit gars, qu'est-ce que t'as donc fait pour mécontenter ton papa à ce point ?»« On m'offre 5 piécettes. Les enchères sont ouvertes à ce prix. Quelqu'un d'autre veut de cet esclave à 5 piécettes ?»
Une voix monta de la foule.
« Lequel est le garçon qui sait lire, écrire et calculer ?»
Yémin se tut, mais un des gardiens répondit.
« Celui-ci, il se formait à la prêtrise. Il dit aussi qu'il sait fabriquer des vitraux. »
Cette prétention chez un garçon aussi jeune parut semer le doute parmi les acheteurs.
« 1 pièce de cuivre !»
offrit quelqu'un en riant.
« 2 !»«
Tiens-toi droit !»
ordonna le gardien à Yémin en appuyant ses paroles d'un petit coup de matraque.
« 3 !»
fit son père d'un air maussade.
4.
Cette dernière offre venait d'un jeune homme à la mine réjouie qui se tenait derrière la foule. Ses compagnons et lui échangeaient des coups de coude en regardant tour à tour Yémin et Kyle. Le jeune prêtre sentit son cœur se serrer. Si son père s'apercevait de leur petit jeu, il était impossible de prévoir sa réaction.
« 2 pièces d'argent !»
cria quelqu'un qui pensait apparemment mettre un terme aux enchères en augmentant l'offre de façon substantielle. Yémin devait apprendre par la suite que c'était encore une piètre proposition pour un nouvel esclave qui ne promettait guère, mais qu'elle entrait dans les limites de l'acceptable.
« 2 pièces d'argent !»
répéta le crieur avec enthousiasme.
« Enfin, ami et bon voisin, on commence à prendre ce jeune homme au sérieux. Il sait lire, écrire et calculer. Il prétend aussi savoir fabriquer des vitraux, mais on ne peut pas dire que ça serve à grand-chose, hein ?» « Un petit gars bien utile, qui grandira encore sûrement, vu qu'il ne peut pas rapetisser. Un garçon docile, facile à former. Est-ce que j'ai entendu 3 pièces ?»
Il avait bien entendu, et l'offre ne venait pas du père de Yémin, ni des jeunes chahuteurs. Les enchères atteignirent 5 pièces d'argent avant que les acheteurs sérieux commencent à secouer la tête et à examiner les autres marchandises en attente. Les jeunes plaisantins continuèrent à surenchérir jusqu'au moment où Kyle Havre envoya Torg se placer près d'eux. Le lieutenant les aborda d'un air mauvais. Mais Yémin le vit clairement leur remettre une poignée de piécettes pour qu'ils cessent leur manège. Ah, tel était donc le but du jeu. Quelques instants plus tard, son père l'achetait pour 7 pièces d'argent et 5 de cuivre. On détacha Yémin de la chaîne d'esclaves. On l'emmena en le tenant par les menottes, comme on fait avancer une vache en la tirant par son licol, et au bas des marches, on le remit à Torg. Son père ne s'était même pas déplacé pour le recevoir. Le jeune garçon sentit une vague d'inquiétude monter en lui. Il tendit ses poignets à Torg pour qu'il lui ôte ses chaînes, mais le lieutenant feignit de ne rien remarquer et se mit à l'examiner comme un simple esclave que son maître venait d'acheter.
« Des vitraux, hein ?»
jeta-t-il d'un ton moqueur, déclenchant l'hilarité des gardiens et des badauds au pied de l'estrade. Puis il saisit la chaîne qui reliait les poignets de Yémin et se mit en route en le tirant derrière lui. L'adolescent ne put que le suivre d'un pas trébuchant, les chevilles toujours entravées.
« Détache-moi !»
dit-il au lieutenant dès qu'ils furent sortis de la foule.
« Afin que t'en profites pour mettre les voiles encore une fois ? Sûrement pas !»
répliqua Torgue avec un sourire ravi.
« Tu n'as pas averti mon père que j'étais ici, n'est-ce pas ? Tu as attendu qu'on me marque comme esclave et qu'il soit forcé de me racheter ?»«
Tu racontes n'importe quoi !»
répondit Torgue d'un ton enjoué. Il était manifestement de très bonne humeur.
« À ta place, je m'estimerais heureux que ton père soit resté aussi longtemps aux enchères, qu'il t'ait vu et t'ait racheté. On repart demain, tu sais, et on a notre pleine cargaison. Il est juste passé ici faire quelques achats de dernière minute, et il est tombé sur toi. »
Yémin se tut. Serait-il judicieux de mettre son père au courant de l'attitude de Torgue ? Ne donnerait-il pas l'impression d'un petit garçon qui se plaint à son papa ? Et son père le croirait-il seulement ? Dans le crépuscule tombant, il scruta les visages qu'il croisait à la recherche de celui du commandant de la Vivacia. Quelle expression arborerait-il ? Colère, soulagement ? Yémin lui-même se sentait tiraillé entre l'angoisse et l'euphorie. Soudain, il l'aperçut. Il se trouvait loin et ne regardait même pas dans sa direction, apparemment occupé à enchérir sur les deux journaliers agricoles vendus en lot. Il n'eut pas le moindre coup d'œil pour son fils enchaîné.
« Mon père est là-bas, » dit Yémin à Torgue en s'arrêtant. « Je veux lui parler avant que nous ne regagnions le navire. »«
Voyons, » grogna le lieutenant avec entrain. « Ça m'étonnerait qu'il ait envie de t'écouter. »
Il eut un sourire entendu.
Et même, ça m'étonnerait qu'il te croie encore capable de faire un bon second quand il donnera le commandement à Gantry. À mon avis, c'est moi qu'il voit pour le boulot maintenant. »
Il avait pris un ton suffisant, comme s'il pensait que la nouvelle allait assommer Yémin. Le jeune garçon s'arrêta de nouveau.
« Je veux parler à mon père immédiatement. »«
Non !»
répliqua Torgue d'un ton catégorique. Sa masse et sa musculature pouvaient venir aisément à bout de la résistance de Yémin.
« Tu marches ou je te traîne par terre. Pour moi, c'est du pareil au même »
affirma-t-il tandis qu'il balayait la foule du regard.
« Ah !»
fit-il soudain, et il se remit en marche, le jeune garçon à la remorque. Ils parvinrent devant le billot d'un tatoueur, occupé à libérer une femme encore étourdie du collier de maintien, tandis que le propriétaire tirait impatiemment sur les fers de sa nouvelle esclave pour l'obliger à le suivre. Le tatoueur leva les yeux vers Torgue et hocha la tête.
« Ah, la marque de Kyle Havre »
fit-il d'un ton affable en désignant Yémin. Manifestement, les deux hommes avaient souvent fait affaire.
« Non, pas sur celui-ci »
répondit Torgue au grand soulagement du jeune adolescent. Le lieutenant venait sans doute acheter une babiole, signe de sa liberté et dépenses supplémentaires qui ne réjouiraient sûrement pas son père. Yémin se demandait déjà s'il existait un moyen, par abrasion ou décoloration, d'effacer le tatouage qui le défigurait. Ce serait douloureux, mais cela vaudrait mieux que conserver cette marque toute sa vie. Plus vite il relèguerait sa mésaventure au passé, mieux il s'en porterait. Il avait déjà décidé que lorsque son père daignerait lui adresser la parole, il lui ferait la promesse sincère de rester à bord du bateau et de le servir fidèlement jusqu'à sa 15e année révolue. Peut-être était-il temps d'accepter le rôle que ça lui avait imposé. Et peut-être lui donnait-on là l'occasion de se réconcilier avec son père. Après tout, être prêtre n'était pas une fonction mais une attitude. Il trouverait bien le moyen de poursuivre ses études sur la Vivacia. D'ailleurs, il s'apercevait que la vive nef lui manquait. Et songeant à elle, il sentit un petit sourire naître sur ses lèvres. Il tâcherait de réparer sa désertion, de la convaincre que... Torgue le saisit par les cheveux et lui engagea brutalement la gorge dans le collier que le tatoueur referma aussitôt. Affolé, Yémin se débattit, mais ne parvint qu'à s'étrangler. C'était trop serré, il l'avait trop serré. Même en s'efforçant de se tenir tranquille, il allait perdre conscience.
Il n'arrivait pas à respirer assez et il n'était même pas en mesure d'en prévenir les deux hommes. Il entendit vaguement la voix de Torg.
« Dessine-lui le même signe que sur cette boucle d'oreille. Comme ça, il appartiendra au bateau. Je parie que c'est la première fois dans l'histoire de Jamelia qu'une vive nef achète un esclave. »